Radio France Internationale, 4h à Paris, 3h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Une timide reprise de l'activité à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, désormais contrôlée en grande partie par le M23 soutenu par le Rwanda. La capitale provinciale du Nord Kivu a vu ses habitants ressortir de chez eux ce jeudi. Certains transports publics ont été remis en route. Les stigmates des affrontements de ces derniers jours sont encore visibles dans la ville, entre vitres brisées et cartouches d'armes à feu éparpillées au sol. Les derniers militaires français déployés au Tchad ont embarqué pour la France. L'armée tchadienne a repris possession ce jeudi de la base d'Hadji Kossey à N'Djamena. C'est la troisième et dernière base qui devait être rétrocédée par Paris. Et puis leur libération par le Hamas a été assez discrète mais très suivie dans leur pays. 5 Thaïlandais ont été relâchés par le groupe islamiste ce jeudi. C'est aussi le cas de 3 Israéliens délivrés eux dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza en échange de 110 détenus palestiniens. Goma tente de se relever après l'effroi. Alors que le M23 et les troupes rwandaises ont pris le contrôle de la plupart des quartiers de la capitale provinciale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, les habitants tentent de reprendre tant bien que mal leurs habitudes après les combats. Pour certains, cela faisait des jours qu'ils n'étaient pas sortis de chez eux, Alexis Guilleux.
Sur la route principale Katindon-Docho, dans l'ouest de Goma, on pouvait voir des centaines d'habitants marcher. Des motos étaient également de sortie, plus nombreuses que la veille. Des bus de transport en commun aussi, dans lesquels sont montés des passagers. Sur cet axe, quelques rares commerçants ont ouvert leurs boutiques. Dans le centre de Goma, en revanche, les magasins et les banques sont restés fermés ce jeudi. L'activité a également repris à la Grande Barrière. On pouvait voir ce jeudi davantage de mouvements de voyageurs dans ce poste frontalier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plus de monde, plus de trafic donc, mais une douce reprise de l'activité, car dans les rues de la capitale provinciale, les traces du conflit sont encore visibles, magasins pillés, vitres cassées, des cartouches jonchent le sol à côté des faits militaires, des vêtements et des véhicules abandonnés sur place. Des éléments du M23 sont visibles par petits groupes sur des ronds-points, le groupe armé a pris position dans la plupart des quartiers de la ville, et ce jeudi, le M23 a par ailleurs tenu sa première conférence de presse dans un grand hôtel de Goma. Le groupe armé, soutenu par le Rwanda, a réaffirmé ses objectifs. En début d'après-midi, l'électricité était revenue dans quelques quartiers de Goma, mais l'accès à l'eau et à Internet reste toujours très difficile.
Alexis Guilleux. Et puis ce jeudi, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, a été reçu à Kinshasa par Félix Tshisekedi, le ministre français des Affaires étrangères, qui a rappelé au président congolais la position de Paris, à savoir une condamnation de l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda, et la pression mise justement sur les forces rwandaises pour qu'elles quittent instamment le territoire congolais. Jean-Noël Barrot a ensuite rallié Kigali. En fin d'après-midi, il devrait rencontrer le président rwandais Paul Kagame ce vendredi matin, selon nos informations. La France qui a totalement retiré ses soldats du Tchad. Les 180 derniers militaires ont quitté la base d'Hadji Kossey ce jeudi. C'était la dernière des 3 bases qui devait être rétrocédée par l'armée française à son homologue tchadienne. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby doit s'y exprimer ce vendredi matin. Une explosion de joie à l'apparition de leurs visages diffusés sur écran géant à Tel Aviv, sur la place des otages. Des centaines de personnes étaient venues assister à la diffusion de la libération de 3 Israéliens relâchés par le Hamas dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza. Une autre vague de libération s'est déroulée en parallèle ce jeudi, c'est celle d'otages thaïlandais. 5 d'entre eux ont été relâchés. Et chez eux, là aussi, l'événement a été très suivi, Pierre-Olivier.
En Thaïlande, à 7000 km de Gaza, c'est tout un pays qui a suivi ce jeudi la libération de 5 des leurs. Aujourd'hui âgés de 28 à 36 ans, ces Thaïlandais seront hospitalisés quelques jours en Israël avant de pouvoir rejoindre leur domicile, en majorité dans la région d'Udon Thani, au nord-est du pays. Tous étaient ouvriers, agricoles et travaillaient dans des champs d'avocats à proximité immédiate de Gaza lors de l'attaque du 7 octobre. En quête d'un avenir meilleur, l'un d'entre eux était venu pour payer les soins médicaux de son père, un autre pour éponger ses dettes. Une libération qui a fait réagir la première ministre thaïlandaise, libanaise qui se dit ravie et remercie la médiation de pays comme le Qatar, la Turquie et les États-Unis, ainsi qu'Israël pour sa prise en charge des otages. C'est la deuxième fois depuis le 7 octobre qu'un groupe de Thaïlandais est remis en liberté. Quelques semaines après l'attaque du Hamas, 23 d'entre eux avaient été relâchés après des négociations menées directement avec Bangkok. Les Thaïlandais forment de loin, après les Israéliens, le groupe le plus touché depuis le 7 octobre, avec au moins 46 personnes exécutées et 31 faites prisonnières.
Pierre-Olivier, j'ajoute que 110 détenus palestiniens ont, eux, été libérés par Israël en parallèle de ces libérations d'otages du Hamas. Ce jeudi toujours, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a, elle, été contrainte de fermer ses bureaux à Jérusalem. C'est le résultat de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi israélienne. Le gouvernement de l'État hébreu qui accuse l'UNRWA d'abriter en son sein des membres du Hamas. Le secrétaire général de l'ONU précise tout de même que les cliniques de l'agence en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est restent ouvertes et que les opérations humanitaires à Gaza se poursuivent. Un crash aérien qui vire au règlement de compte politique aux États-Unis. Après avoir annoncé lors d'un point presse ce jeudi qu'il n'y avait aucun survivant à la collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire qui a fait 67 morts au-dessus de Washington la veille, Donald Trump s'en est ensuite pris à ses prédécesseurs démocrates. Le président américain actuel a en effet accusé Joe Biden et Barack Obama d'avoir abaissé les exigences en matière de sécurité aérienne. Le républicain en a aussi profité pour cibler les programmes de promotion de la diversité chez le régulateur aérien américain. La lutte contre la diversité et l'immigration illégale qui obsède Donald Trump. Dernière annonce choc dans ce sens, la création d'un centre pour les migrants les plus dangereux sur le site de la prison de Guantanamo, normalement dédié aux terroristes. En attendant, ce sont plus d'un millier de migrants qui sont expulsés chaque jour des États-Unis. Une crainte qui affecte de plus en plus de personnes qui cherchent donc de l'aide auprès d'associations. En Géorgie, par exemple, chez Georgia Latino Alliance for Human Rights, le téléphone sonne sans arrêt. Édouard Maille.
Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. Buenas tardes.
Deux employés répondent au coup de fil. Le nombre d'appels a considérablement augmenté depuis une semaine, comme le raconte Susanna.
Ils sont inquiets et se demandent que faire si les autorités frappent à leur porte. Où seront mes enfants? Car les enfants sont à l'école et les parents à la maison ou au travail. On a vu que les enfants sont stressés et ont peur. Ils ne veulent plus aller à l'école. Ils sont en larmes. C'est traumatisant pour eux.
And it's a trauma for them.
D'autres veulent savoir comment retrouver leurs proches arrêtés par les autorités, explique Veronica.
Beaucoup de familles ne savaient pas où avaient été emmenés leurs proches. Certains étaient encore au bureau de l'autorité de l'immigration à Atlanta, où ils sont emmenés, avant d'être répartis dans les centres de détention.
Les employés leur expliquent aussi comment envoyer de l'argent aux personnes incarcérées.
Ça sert à passer des appels, acheter de la nourriture ou d'autres choses, des chaussettes ou des sous-vêtements.
L'association rappelle aussi aux personnes leurs droits, comme celui de ne pas ouvrir aux autorités si elles viennent frapper à la porte. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Et puis c'était l'un des artefacts politiques légués par la dictature Pinochet au Chili. Le système des retraites avait mis en place dans les années 80, l'un des premiers au monde à créer un système obligatoire par capitalisation individuelle, sauf que ce fonctionnement était en fait très décrié en raison de pensions très faible. Le Parlement chilien a donc adopté mercredi soir une réforme sur le sujet, Justine Fontaine.
La loi a été largement adoptée grâce au soutien de la coalition de gauche au pouvoir et de la majorité des députés de droite. Après des manifestations gigantesques ces dernières années contre le système de retraite hérité de la dictature et après plus de 15 ans de tentatives de réforme, cette fois-ci la nouvelle loi ouvre la voie au passage à un système mixte de retraite public et privé et réintroduit pour la première fois depuis la dictature des cotisations retraite de la part des employeurs. Le président de gauche, Gabriel Boric, a salué une réforme historique selon lui.
C'est un très grand succès pour le Chili. Concrètement, cela va mener à la plus forte hausse du niveau des retraites depuis la réforme des années 80.
Entre 15 et 35% de hausse, en particulier pour les femmes, celles qui ont les retraites les plus faibles. Aujourd'hui, plus de la moitié des retraites sont inférieures au seuil de pauvreté. Cela dit, la réforme n'est pas aussi ambitieuse que ce qu'avait promis le président chilien pendant sa campagne. La capitalisation individuelle, avec des cotisations gérées par les très contestés fonds de pension privés, reste au cœur du système, malgré la nouvelle loi.
Justine Fontaine, c'est la fin de ce journal sur RFI. 4h10 à Paris, 3h10 temps universel.